Journal d'un écrivain, 1876, octobre. Chapitre 1. Une affaire simple, mais compliquée. Le 15 octobre, on a jugé l'affaire de cette marâtre qui, en mai dernier, jeta par une fenêtre du quatrième étage sa petite belle-fille âgée de 6 ans. Par miracle, l'enfant ne fut pas tué. Cette belle-mère, la paysanne Catherine Komilova, âgée de 20 ans, a épousé un veuf, qui, d'après ses dires, la querellait, lui interdisait de fréquenter ses parents, et l'assommait continuellement en lui vantant, dans le but de l'humilier elle-même, les mérites et vertus de sa défunte première femme. Ce fut donc sa faute si elle cessa de l'aimer. Pour se venger de l'épouse fantôme, elle résolut de jeter par la fenêtre la fillette issue du premier mariage, et accomplit son dessein. Si l'enfant n'avait pas échappé à la mort, l'histoire ne serait que trop simple et trop claire. Le tribunal l'a aussi jugée très claire, et le plus simplement du monde a condamné Catherine Kornilova à 2 ans et 8 mois de travaux forcés et à la déportation en Sibérie à l'expiration de sa peine. Et pourtant, malgré toute cette clarté et cette simplicité, il reste quelque chose d'inexplicable pour moi dans cette affaire. L'accusée, une femme d'un visage assez agréable, parut au tribunal dans un état si avancé de grossesse qu'une sage-femme fut admise dans la salle des séances pour le cas où ses soins deviendraient nécessaires. Je me rappelle avoir écrit dans mon carnet que l'action de cette marâtre monstre était si terrible qu'il eût été nécessaire de la soumettre à une analyse subtile et profonde, qui eût peut-être servi à adoucir le sort de la coupable. L'accusée avoue tout. Dès son arrestation, elle raconta sans difficulté au commissaire de police que la veille déjà elle avait voulu en finir avec sa petite belle-fille, qu'elle exécrait en haine du père, son mari. Mais l'arrivée de ce dernier l'avait empêchée d'agir. Le jour suivant, dès que le père fut parti travailler, elle ouvrit la fenêtre et ordonna à la petite de monter sur l'appui et de regarder dans la rue. L'enfant obéit, peut-être avec plaisir, curieuse de savoir ce qu'elle verrait ainsi. Mais dès qu'elle fut montée, la belle-mère la prit par les pieds et la jeta dans le vide. Après quoi, la criminelle ferma la fenêtre, s'habilla et s'en fut au commissariat pour raconter ce qu'elle avait fait. C'est bien simple. Trop simple, n'est-ce pas? Pourtant, il y a là quelque chose de fantastique. On a souvent accusé nos jurés d'acquitter avec une facilité révoltante. Je me suis même indigné de certains de ces acquittements. Cependant, quand j'ai lu la condamnation, 2 ans et 8 mois de travaux forcés, j'ai pensé qu'il aurait peut-être fallu acquitter la malheureuse. On avait un légitime motif d'indulgence, l'état de grossesse de l'accusée. Tout le monde sait qu'une femme, pendant la grossesse, et surtout quand elle est enceinte de son premier enfant, est fréquemment sujette à des troubles bizarres, soumise à des influences inexplicables, souvent terribles. En admettant même qu'il n'en soit ainsi que rarement, il doit être suffisant que le fait puisse se produire pour que les jurés prennent en considération l'état de santé de la femme criminelle. Le docteur Nikitine, qui a examiné la coupable, a déclaré que, selon lui, la Kornilova avait commis son crime consciemment. Il a bien voulu admettre qu'elle fût excitée et malade. Mais que peut signifier ici le mot « consciemment » Il est rare que l'homme n'agisse pas consciemment, si ce n'est pas en état de somnambulisme ou de délire. Les médecins ne savent-ils pas qu'un fou, même, peut commettre une action consciemment, sans en être tout à fait responsable? Il se souviendra de son acte, le discutera, le défendra devant vous avec une logique qui vous stupéfiera, mais je ne crois pas à son entière responsabilité. Je ne suis pas médecin, moi, mais je me rappelle qu'il y avait à Moscou une dame qui, à chacune de ses grossesses, mais seulement pour une courte période, était prise d'un besoin irrésistible de voler n'importe quoi. Elle volait des objets et de l'argent chez les amis qu'elle fréquentait, dans les magasins, dans les plus petites boutiques. Sa famille faisait reporter par les domestiques les objets soustraits. Cette dame était dans une belle situation, instruites, bien élevées, mondaines. Dès que ses accès étaient passés, elle ne songeait plus à rien dérober. Tout le monde en conclut que c'était un phénomène passager de la grossesse. Elle volait pourtant avec discernement. Seulement, quand elle était prise de sa manie, elle ne pouvait résister à l'entraînement. La médecine ne peut, je crois, rien dire sur le côté spirituel de ces phénomènes. Des influences du même genre n'agissent que trop fréquemment. C'est assez pour que la conscience d'un juge s'en inquiète. On me dira, la Kornilova n'a pas commis un crime inexplicable. Elle s'est tout uniment vengée de son mari et de la première femme de ce dernier en tuant la fillette. C'est compréhensible. Soit. Mais ce n'est pas si simple que ça en a l'air. Avouez que, si elle n'avait pas été enceinte, elle n'aurait sans doute pas imaginé une vengeance de ce genre. Restée seule avec sa petite belle-fille, après avoir été battue par son mari, elle aurait peut-être pensé, en regardant l'enfant, « Toi, je te jetterai bien par la fenêtre. » Mais elle ne l'aurait pas fait. En état de grossesse, elle l'a fait. Si les jurés l'avaient acquittée, ils auraient pu du moins s'appuyer sur un argument sérieux. Leur pitié eût été admissible. Qu'eût importé une erreur? Il vaut mieux se tromper en étant trop indulgent que par trop de sévérité, surtout dans un cas aussi douteux. Certes, la femme se croit coupable. Elle a avoué son crime aussitôt après l'avoir commis. Elle a renouvelé ses aveux 6 mois plus tard. Elle ira peut-être en Sibérie en se croyant justement châtiée. Mourra sans doute en se repentant d'avoir essayé de commettre un meurtre. Elle ignorera probablement toujours qu'elle n'a agi que poussée par une surexcitation morbide occasionnée par la grossesse. Remarquez encore une chose. L'accouchement de la Kornilova était imminent, puisque la sage-femme était dans la salle des séances. En condamnant la coupable, on a condamné aussi l'enfant qui n'était pas encore né. Voilà un enfant qui, avant sa naissance, est condamné à la déportation avec sa mère. Il grandira là-bas. Il saura tout sur cette mère, et que deviendra-t-il? Et je vais trop loin. Regardons simplement l'affaire telle qu'elle est aujourd'hui. Voici Kornilov, le mari devenu veuf une seconde fois. Il est libre. Son mariage est cassé par la déportation même de sa femme en Sibérie. Mais la femme n'est pas partie. Elle accouchera avant son départ. Kornilov, sans doute, viendra la voir, peut-être avec la fillette victime de l'attentat. Qui sait s'ils ne se réconcilieront pas de la façon la plus sincère? On peut admettre qu'ils ne se disent pas un mot de reproche, qu'ils ne s'en prennent qu'à leur sort. La fillette, jetée par la fenêtre, viendra faire des commissions pour son père. « Tenez, petite maman, voici des petits pains. Voici du thé et du sucre que papa vous envoie. Demain, il viendra lui-même. » Ils sangloteront, qui sait, quand ils se diront adieu, le jour où le chemin de fer emportera la Kornilova en Sibérie. Et la fillette, victime de la marâtre, sanglotera aussi. Et le nourrisson criera que la femme l'emmène avec elle ou qu'il reste chez le père. Qu'attendent-ils nos romanciers? Voici un sujet vraiment réaliste où il n'y a qu'à suivre la vérité pas à pas. Est-il vraiment impossible d'adoucir un peu le verdict qui a frappé la Kornilova? Ce verdict est une erreur. Je vois, troublement comme dans un songe, que c'est une erreur. Chapitre 2. Quelques aperçus sur la simplicité et sur la simplification. Je voudrais maintenant vous soumettre quelques considérations sur ce qui est simple en général. Je me souviens d'une petite et étrange mésaventure qui m'arriva. Il y a 30 ans, pendant l'hiver, je passais, un soir, à la bibliothèque de la rue Mieschanskaya. J'avais l'intention d'écrire un article de critique et j'avais besoin d'un roman de Tchakeré dont je voulais faire un résumé. Une demoiselle me reçut, je lui demandai le roman. Elle me regarda de l'air le plus sévère. « Nous ne tenons pas de ces bêtises-là » fit-elle d'une voix tranchante, et en marquant pour ma personne un mépris que vraiment je ne méritais pas. Considérez-vous donc les romans de Thackeray comme des bêtises ? Interrogeai-je avec humilité. Vous ne le saviez pas, et vous n'avez pas honte d'en convenir. Aujourd'hui, ma demande paraîtrait excusable, mais je m'en fus, laissant la demoiselle très satisfaite de la leçon qu'elle m'avait donnée. Vous me direz que la demoiselle était une petite dinde ignare. Mais je fus frappé de ce jugement carré, rapide, et réellement par trop simple, porté sur des livres qu'elle n'avait pas lus. Il n'y avait qu'à la regarder pour en être sûr. Mais nous sommes comme cela, en Russie. Nous sommes trop promptes à nous en rapporter sur parole à des jugements aussi simples et décisifs. Il y a chez nous une invraisemblable manie de porter immédiatement des jugements, de prononcer des sentences sans rien approfondir. Regardez un peu. Actuellement, tout le monde en Russie croit à la réalité du mouvement national en faveur des Slaves d'Orient. Mais j'ai peur que cette croyance ne suffise plus et que l'on exige quelque chose de plus simple encore. Un membre d'une commission racontait devant moi qu'on lui écrivait des lettres pour lui poser des questions de ce genre. Pourquoi secourons-nous les Slaves en tant que Slaves? Si les Scandinaves se trouvaient dans la même position, devrions-nous aussi courir à leur aide? Il y a en Russie une tendance à tout simplifier jusqu'à nihil, jusqu'à tabula rasa. Qu'y a-t-il en effet de plus simple qu'un zéro? On trouve chez nous beaucoup de gens auxquels la volonté du peuple, nettement exprimée, n'a pas plu. Ils ont très bien compris, trop bien même, et se sont affectés. Alors ils laissent entendre qu'il ne faut pas trop se presser, qu'il y a des complications à craindre. Nous possédons nombre de petits vieillards avisés. Il y a de jeunes vieillards qui voudraient réduire le mouvement à quelque chose de raisonnable, de simple, d'abstentionniste. C'est parfois grâce à cette rage de simplification qu'une œuvre grande et belle avorte complètement. Et cette simplicité peut nuire au simplificateur même. La simplification est ennemie de l'analyse, si bien que certaines opinions simples finissent par devenir fantastiques. Notre pays s'est depuis longtemps trop simplement scindé en deux, et l'on ne saurait s'imaginer combien simple est l'opinion d'une partie de la Russie sur l'autre. C'est la négation même. Et cela a commencé du temps de Pierre le Grand. Chapitre 3. Deux suicides. Vous avez beau, me dit un ami, faire ressortir le comique de la vie dans une œuvre d'art, vous serez toujours au-dessous de la réalité. Je savais déjà cela en l'an 1846, alors que je commençais à écrire, et c'était pour moi une cause de grande perplexité. Et il ne s'agit pas que du comique. Prenez un fait quelconque de la vie courante, un fait sans grande importance à première vue. Et si vous savez voir, vous y trouverez une profondeur dont l'œuvre de Shakespeare lui-même ne donne pas la moindre idée. Mais nous ne savons pas tous voir. Pour bien des gens, les phénomènes de la vie sont si insignifiants qu'ils ne prennent même pas la peine de les examiner. Quelques penseurs observeront mieux ces phénomènes, mais seront impuissants à les mettre en valeur dans une œuvre. Il y en a que cette impuissance pousse au suicide. À ce propos, un de mes correspondants m'a écrit au sujet d'un étrange et inexplicable suicide dont j'ai désiré parler tous ces temps-ci. C'est une pure énigme. La suicidée, jeune fille de 23 ou 24 ans, était la fille d'un Russe passé à l'étranger, née elle-même hors de Russie, russe de sang, mais non d'éducation. Un journal nous dit comment elle s'est donné la mort. Elle trempa de l'ouate dans du chloroforme, s'enveloppa le visage de cette ouate et se coucha sur son lit. Avant son suicide, elle avait écrit ce billet en français. Je m'en vais entreprendre un long voyage. Si cela ne réussit pas, qu'on s'assemble pour fêter ma résurrection avec du cliquot. Si cela réussit, je prie qu'on ne me laisse enterrer que tout à fait morte, parce qu'il est très désagréable de se réveiller dans un cercueil sous terre. Ce n'est pas chic. » Dans ce grossier mot de « chic », il y a pour moi une protestation, de la colère. Mais contre quoi ? D'ordinaire, les causes des suicides sont évidentes, ou en tout cas faciles à trouver. Ici, rien de pareil. Quelle raison cette jeune fille avait-elle pour se détruire ? Souffrait-elle de la banalité du train-train quotidien ? De l'inutilité de son existence ? S'indignait-elle, comme tel contempteur de la vie, de ce qu'il y avait de stupide dans l'apparition de l'homme sur la terre ? Y avait-il chez elle une horreur de la tyrannie de forces aveugles auxquelles elle ne pouvait se décider à se soumettre ? On pourrait deviner en elle une âme qui se révoltait contre la fatalité de la vie, qui ne pouvait supporter le fardeau de cette fatalité. Le plus horrible, c'est qu'elle a dû mourir sans cause de désespoir très précise. Elle a cru à tout ce qu'elle avait entendu dire depuis son enfance. Elle l'a cru sur parole. Sans doute, elle étouffait en quelque sorte dans le milieu où se passait sa vie. Cette vie même l'étouffait. C'était trop simple, trop peu inattendu. Inconsciemment, elle exigeait quelque chose de plus compliqué. Mais voici un autre suicide. Il y a environ un mois, tous les journaux pétersbourgeois publiaient une note disant qu'une pauvre jeune fille, couturière de son état, s'était jetée d'une fenêtre d'un quatrième étage parce qu'elle ne pouvait se procurer aucun travail. On ajoutait qu'on l'avait retrouvée tenant à la main une image sainte. Ce dernier trait est extraordinaire quand il s'agit d'un suicide. Cette fois, je suis sûr qu'il n'y avait eu ni révolte ni murmure. Il était simplement devenu impossible de vivre. « Dieu n'a pas voulu », aura dit la pauvre fille, et elle se sera tuée après avoir fait sa prière. Ces choses-là ont beau paraître simples, elles vous poursuivent comme un cauchemar. Nous arrivons à en souffrir comme si elles avaient eu lieu par notre faute. En lisant la mort de l'ouvrière, j'ai repensé à celle de la jeune cosmopolite dont je parlais tout à l'heure. Que ces deux êtres étaient différents. Et comme leur suicide se ressemble peu, laquelle de ces deux âmes a pâti davantage dans ce monde ? Me demanderais-je volontiers si une pareille question n'était un peu impie. Chapitre 4. La sentence. Voici un raisonnement de « suicidé par ennui », matérialiste comme de juste. Quel droit avait la nature de me mettre au monde en obéissant à ses prétendues lois éternelles ? Je suis conscient. Pourquoi cette nature m'a-t-elle créé sans mon consentement, moi, conscient, c'est-à-dire souffrant ? Mais je ne veux plus souffrir. À quoi cela servirait-il ? La nature, par la voix de ma conscience, me déclare qu'il y a dans l'univers une harmonie générale. C'est là-dessus que se basent les religions humaines. Et si je ne veux pas faire ma partie dans cette harmonie, faudra-t-il que je me soumette quand même aux déclarations de ma conscience ? Faudra-t-il que j'accepte la souffrance en vue de l'harmonie du tout ? Si je pouvais choisir, je préférerais être heureux pendant le court moment de mon existence. Je me soucie infiniment peu du tout, et de ce que ce tout deviendra quand j'aurai péri. Pour quelle raison devrais-je me soucier de sa conservation à une époque où j'aurais disparu ? J'aimerais bien mieux vivre comme les animaux, qui sont inconscients. Je trouve que ma conscience, loin de coopérer à l'harmonie générale, est une cause de cacophonie, puisqu'elle me fait souffrir. Regardez quels sont les gens heureux dans ce monde, les gens qui consentent à vivre. Ce sont justement ceux qui ressemblent aux animaux, qui se rapprochent de la bête par le peu de développement de leur conscience. Ceux qui vivent d'une vie brutale, qui consiste uniquement à manger, à boire, à dormir et à procréer des petits. Manger, boire et dormir, cela signifie, en langage humain, voler, piller et construire son nid ou sa bauge. On m'objectera que l'on peut construire son gîte d'une façon raisonnable, voire scientifique. Mais à quoi bon ? À quoi bon se faire une place dans la société humaine d'une façon juste et sage ? Personne ne pourra répondre à cela. Oui, si j'étais une fleur ou une vache, je pourrais être heureux. Mais je ne puis éprouver de joie de rien. Même le bonheur le plus haut qui soit, celui d'aimer ses semblables, est vain, puisque demain tout sera détruit, puisque tout retournera au chaos. Que j'admette un instant que l'humanité marche au bonheur, que les hommes à venir seront parfaitement heureux, la pensée seule que, pour obtenir ce résultat, la nature ait eu besoin de martyriser tant d'êtres pendant des milliers d'années, me sera insupportable et odieuse. Sans compter que ce bonheur, la nature s'empressera de le replonger dans le néant. Une question horriblement triste se pose parfois à moi. « Et si l'homme, me dis-je, n'était que le sujet d'une expérience ? S'il ne s'agissait que de savoir s'il peut, oui ou non, s'adapter à la vie terrestre ? Mais non, il n'y a rien, pas d'expérimentateur, donc pas de coupable. Tout s'est fait selon les aveugles lois de la nature. Et non seulement la nature ne me reconnaît pas le droit de l'interroger et ne me répond pas, mais encore ne peut ni admettre quoi que ce soit, ni répondre. Attendu que, dans ces circonstances, je suis à la fois défendeur et demandeur, accusé et juge, que je trouve cette comédie stupide et intolérable, et même humiliante pour moi, en mes qualités incontestables de demandeur et de défendeur, de juge et d'accusé, je condamne cette nature qui m'a procréé insolemment pour que je souffre, à disparaître avec moi. Comme je ne puis pas exécuter toute ma sentence en détruisant la nature en même temps que moi, je me supprime moi-même, ennuyé à la fin de subir une tyrannie dont personne n'est coupable. » Chapitre 5. Les meilleurs hommes. Il conviendrait peut-être de dire quelques mots de ceux que j'appellerais les meilleurs hommes. Je veux parler de ceux sans lesquels aucune société ne pourrait vivre et durer. Ils se partagent du reste en deux catégories. Devant la première, la foule s'incline d'elle-même, heureuse de rendre hommage à des vertus réelles. La seconde catégorie reçoit aussi des marques de respect, mais on dirait que ces manifestations ne se produisent pas sans quelques contraintes. Elle est composée de gens qui ne sont les meilleurs qu'en les comparant avec ceux qui ne valent pas grand-chose. Cette dernière catégorie est appréciée surtout à des points de vue hautement administratifs. Toute société, pour vivre et durer, a besoin d'admirer, ou tout au moins d'estimer, quelqu'un ou quelque chose. Comme les meilleurs hommes de la première catégorie sont souvent des gens un peu difficiles à comprendre, préoccupés qu'ils sont d'un idéal qui les rend distraits, parfois bizarres, maniaques et très indifférents au plus ou moins de noblesse de leur extérieur, le public se rabat sur les personnages qui ne sont les meilleurs que relativement. Ces meilleurs hommes, on les trouvait jadis dans l'entourage des princes. C'étaient aussi des boyards, des membres du haut clergé et des marchands notables. Mais ces derniers n'étaient admis qu'en petit nombre au privilège de figurer parmi les meilleurs hommes. Ces dignitaires, chez nous comme en Europe, créaient pour leur usage une sorte de code de la vertu et de l'honneur, peut-être pas toujours très conforme à l'idéal du pays. Par exemple, les meilleurs hommes devaient, sans se faire prier, mourir pour la patrie, si l'on semblait attendre ce sacrifice de leur part, et y aller bon jeu, bon argent, craignant qu'une reculade ne les déshonorât, eux et leur famille. Évidemment, cela valait mieux que le droit à l'infamie, qui permet à un homme d'aller se cacher au moment du danger en grommelant « Que tout périsse pourvu que je sauve ma peau !» Il faut remarquer aussi que souvent ces meilleurs hommes relatifs eurent un idéal qui ne différait en rien de celui qu'invoquaient les autres meilleurs hommes. Meilleur absolument. Il n'en fut pas toujours ainsi, mais on peut dire qu'il y eut à une époque beaucoup plus de sympathie entre les boyards et le peuple russe qu'entre les chevaliers vainqueurs et tyranniques de l'Europe et leurs vaincus, les serfs. Soudainement, il s'opéra un changement radical dans l'organisation des meilleurs hommes de chez nous. Sur un décret du souverain, il y eut 14 classes de noblesse, 14 degrés de la vertu humaine, parés de noms allemands. Bien entendu, les 14 classes furent envahies par les anciens meilleurs hommes. Mais il resta des places vacantes, et des mérites nouveaux se firent jour. Des hommes instruits, d'une culture très avancée pour l'époque, accédèrent à la noblesse et s'empressèrent, à coups de grade, de se métamorphoser en nobles pur sang. Mais l'aristocratie n'en conserva pas moins tout son prestige. Et au moment où la fortune, la propriété régnaient tyranniquement sur l'Europe, la noblesse chez nous l'emportait sur n'importe quels avantages matériels. Il n'y a pas encore très longtemps, et le fait est parfaitement authentique, une dame noble de Pétersbourg, ne trouvant pas de place dans un concert, chassa publiquement du fauteuil qu'elle occupait une marchande 10 fois millionnaire, que de plus elle injuria. Les meilleurs hommes, il faut le dire, surent conserver quelques hauts principes. Ils se firent gloire d'être une classe instruite par excellence et gardienne des règles de l'honneur. Malheureusement, leurs idées évoluèrent dans le sens européen, si bien qu'à un moment donné, il y eut beaucoup d'honneur et peu d'honnêtes gens. Tout à coup, eut lieu un bien plus grand bouleversement. Les serfs furent affranchis, et toutes les conditions de vie du pays furent modifiées profondément. Il est vrai que les 14 classes de noblesse demeureront ce qu'elles étaient. Mais les meilleurs hommes perdirent de leur influence. L'opinion publique ne les plaça plus aussi haut qu'avant. On en vint à se demander où et comment on recruterait de nouveaux meilleurs hommes, à présent que les anciens étaient tombés dans l'estime générale. Sur le même sujet, les choses tend vinrent au point que le pouvoir ne choisit plus, ou le moins possible, ses conseillers et ses fonctionnaires dans les rangs des nobles. Ils perdirent ainsi leur caractère officiel. Ceux d'entre eux qui voulurent demeurer à la tête des affaires du pays durent positivement passer de la catégorie des meilleurs hommes relatifs à celle des hommes absolument meilleurs que les autres, des meilleurs hommes que j'appellerais les « naturellement meilleurs ». Une espérance charmante naquit. On s'imagina que ce seraient désormais les gens vraiment méritants qui occuperaient toutes les places. Mais où trouver ces derniers? Pour quelques-uns, ce fut une énigme. D'autres se dirent que tout s'arrangerait forcément, que si les hommes naturellement les meilleurs ne remplissaient pas encore toutes les fonctions, ils les rempliraient le lendemain, infailliblement. Certains penseurs demeurèrent toutefois dans le doute. Comment s'appelaient-ils ces meilleurs hommes naturels? Où, d'abord, était l'homme universellement reconnu le meilleur? Évidemment, ce ne fut pas sous cette forme que l'on parla de la question. Mais toute notre société connut des heures de trouble. Des gens ardents et enthousiastes crièrent aux sceptiques que le meilleur homme était tout trouvé, que c'était le plus instruit, l'homme de science dépourvu des préjugés de l'ancien temps. Beaucoup déclarèrent cette opinion inacceptable. L'homme instruit n'était pas forcément un homme honnête, car la science ne pouvait rien à ce point de vue. D'aucuns parleront de rechercher le phénix demandé dans les rangs du peuple. Mais le peuple, après l'émancipation des serfs, ne s'était pas hâté de rendre éclatante sa vertu. On lui prêtait de plus une vénération réelle pour les usuriers, qu'ils semblaient considérer comme les hommes les meilleurs. Enfin apparut une opinion vraiment libérale, sinon dans sa donnée, du moins dans son essence. Notre peuple ne pouvait pas encore concevoir un idéal bien net du meilleur homme possible. Il avait besoin de se dégrossir, de s'instruire. Il fallait l'y aider. Une nouvelle influence, détestable celle-là, entra en jeu. La ploutocratie, le sac d'or. Certes, la puissance du sac d'or n'était pas absolument inconnue chez nous. Le marchand millionnaire était un personnage dans son genre depuis longtemps, mais il n'occupait pas une place par trop prépondérante dans la hiérarchie sociale. Il n'en valait pas mieux pour cela. Plus il s'enrichissait, pire il était. Moujik engraissé, il n'avait plus aucune des qualités du moujik. On pouvait diviser ses parvenus en deux classes. La première continuait à porter la barbe. Elle se composait de véritables sauvages qui, malgré leur richesse, vivaient dans leurs immenses et belles maisons comme de simples cochons, et physiquement et moralement. Moujik nullement dégrossi, ils avaient cependant nettement rompu avec le peuple. Ovsianikov, lorsqu'on le menait récemment en Sibérie par Kazan et qu'il rejetait à coups de pied les kopecks que les paysans lançaient dans sa voiture comme aumône, montrait bien à quel point cette rupture est définitive. Jamais, du reste, le peuple n'a été exploité et asservi comme dans les fabriques appartenant à ce genre de messieurs. La seconde classe de ces millionnaires se distinguait par ses mentons rasés. De magnifiques mobiliers européens encombraient ses demeures. Ses filles parlaient français, anglais, jouaient du piano. Les pères parfois étalaient vaniteusement une décoration achetée au prix de quelques largesses. Ces gens-là se montraient d'une arrogance inouïe envers ceux qui dépendaient d'eux et platement serviles envers les hauts dignitaires. Tout leur rêve était d'avoir un grand personnage à dîner chez eux. On eût cru qu'ils ne vivaient que pour cela, n'avaient fait fortune que pour cela. Ils étaient à genoux devant le million qu'ils avaient gagné. Le million les avait tirés de l'anonymat, leur avait donné une valeur sociale. Dans l'âme corrompue de ces moujiks grossiers, car ils continuaient à être des moujiks malgré leurs habits noirs, aucune pensée autre que celle d'inviter leur dignitaire à dîner ne pouvait se substituer à l'obsession du million qu'ils adoraient comme un dieu. Malgré leur extérieur brillant, les familles de ces marchands ne brillaient pas par l'instruction. Et le million en était cause. Pourquoi envoyer les fils à l'université si, dépourvus de tout savoir, ils pouvaient arriver à tout? Il faut dire que ces millionnaires trouvaient quelquefois le moyen d'obtenir des titres de noblesse. Les jeunes gens, corrompus, pervertis par les idées les plus subversives sur la patrie, l'honneur et le devoir, ne tiraient aucun profit moral de la fortune de leur père. C'étaient de jeunes fauves insolents. Leur démoralisation était horrible, car ils n'avaient qu'une seule conviction, à savoir qu'avec de l'argent, on achetait tout, honneur et vertu. Il arrivait parfois à ces marchands d'offrir des sommes immenses à l'État quand le pays était en danger. Mais ces dons n'étaient faits qu'en vue des récompenses qu'ils pourraient obtenir. Aucun patriotisme vrai, aucun sentiment de civisme n'existait dans ces cœurs. Et le marchand n'est plus seul, chez nous, à adorer le sac d'or. Autrefois, je le répète, on aimait et on appréciait la richesse, comme partout. Mais jamais on n'avait considéré le sac d'or comme la chose la plus belle, la plus noble, la plus sainte. Maintenant, je crois que les adorateurs du million sont, chez nous, en majorité. Dans l'ancienne hiérarchie russe, le marchand le plus fabuleusement riche ne pouvait prendre rang avant le fonctionnaire. La nouvelle hiérarchie aplatit tout obstacle devant les possesseurs des sacs d'or, devant les représentants de cette aimable catégorie de meilleurs hommes récemment inventés. Le boursier a des écrivains à ses gages, les avocats s'empressent autour de lui, tout le monde lui chante des hymnes pleins de ses louanges. Le sac d'or est si puissant qu'il commence à inspirer de la terreur. Mais nous, les représentants de la classe élevée, ne nous laissons pas gagner au culte de la nouvelle idole. Depuis 200 ans, les nôtres jouissent des bienfaits de l'instruction. L'instruction doit être pour nous une armure qui nous permettra de vaincre le monstre. Hélas, notre peuple de 100 millions d'individus, si corrompu et déjà entamé par le juif, qu'opposera-t-il au monstre du matérialisme déguisé en sac d'or? Sa misère, ses haillons, les impôts qu'il paie, ses privations, ses vices, l'eau-de-vie, les mauvais traitements subis? Combien il est à craindre que ce soit lui qui, avant tous les autres, s'écrie « Oh, sac d'or, tu es tout, tu es la force, la tranquillité, le bonheur, je me prosterne devant toi. » N'est-ce pas à craindre ?